quand j'amène la prédication, ça fait deux, trois dernières prédications, j'apporte toujours, j'avais à cœur d'apporter les petits prophètes, les 12 derniers livres du Vieux Testament, les petits prophètes. Et on a entendu, j'ai apporté Osée, j'ai apporté Amos, j'ai apporté deux ou trois. Et cette semaine, ça aurait dû être notre prophète, le petit prophète Abdias. Abdias. Alors, guidé par l'esprit, je pense, mais quelque chose d'autre que je pense qui serait plus important à apporter aujourd'hui, je vais prendre un congé de les vieux prophètes et je venais d'apporter une parole qui se trouve dans Jean 9. Si vous avez votre Bible, vous pouvez tourner avec moi dans Jean 9. On va voir Jean 9 de 1 à 5, si vous voulez. Glory. Gloire à Dieu. Jean 9. Jean 9, 1 à 5. Si vous avez votre Bible, si vous voulez garder sur l'écran, c'est bien. La semaine prochaine, on va avoir Cody Guitard de nouveau avec nous. Continuez à prier pour eux. Continuez à prier pour sa femme, parce que sa femme est prête à délivrer leur troisième enfant. Elle est prête à délivrer ces jours ici, là. Alors, s'il vous plaît, continuez à les garder en prière. Et Cody devrait être avec nous la semaine prochaine. Amen. Amen. Alors, Jean 9, 1 à 5. Amen. J'ai marqué 1 à 4. Mon première erreur. On continue. 1 à 5. Amen. Alors, ça parle en partant. Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors une question. « Dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce qu'à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? » Jésus répondit, « Cela n'a pas de rapport avec son péché ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. » Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit ne vient où plus personne ne pourra travailler. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde. Seigneur, je te prie encore, Seigneur Jésus, que je puisse apporter ce message que tu as mis sur mon cœur avec simplicité, Seigneur, avec Seigneur Jésus, avec ton esprit, Seigneur. Toi, tu connais les cœurs, Seigneur Jésus. Et je te prie que par ton esprit, tu viennes ouvrir notre esprit, Seigneur, qu'on puisse entendre ce que tu veux nous dire ce matin. Seigneur, merci, Seigneur, que ta parole est vraie, que tu es réelle, Seigneur Jésus, et que tu parles encore aujourd'hui. Merci, Seigneur. Seigneur, on veut, Seigneur, être touché encore par toi, Seigneur. Alors viens, par ton esprit, je te prie. Ton nom. Amen. Amen. Comme on a dit, c'est un privilège de pouvoir louer le Créateur, notre Créateur, le vrai Dieu. Comme chrétien, comme enfant de Dieu, c'est l'un des plus grands privilèges et c'est aussi un appel pour chacun de nous d'aider notre Père Céleste dans son œuvre, ici sur la terre. Quel privilège, quelle bénédiction. Jean nous dit dans Jean 9, « Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. » Wow! Il nous faut accomplir les œuvres. Quand Jésus dit « nous », ça veut dire « nous ». J'ai gardé dans l'hébreu, j'ai gardé dans le grec, j'ai gardé dans les dictionnaires bibliques, ça veut dire « nous ». Nous autres. Nous. Ça veut dire nous, ça veut dire que ses disciples, nous, devons aussi être impliqués dans l'œuvre de son Père, comme lui, il l'était, comme Jésus l'était. J'aimerais qu'on pourrait regarder un peu ces versets-là, voir quelque chose qui pourrait nous aider peut-être à accomplir les œuvres de Dieu dans notre vie, accomplir les œuvres de Dieu. Alors, premièrement, j'aimerais qu'on pourrait voir la nécessité des œuvres de Dieu. La nécessité des œuvres de Dieu. Une autre version nous dit, Le premier verset nous le dit comme ceci. « Comme il passait, il vit un aveugle de naissance, et ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il naisse aveugle? » Jésus répondit, « Je n'ai pas que cet homme ait péché, ni ses parents, mais c'est pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. » Merci Seigneur. Intéressant, hein? Une drôle de scène, je trouve. Je trouve intéressant que le contraire de la manière que les disciples ont vu cette personne et la manière que Jésus a vu cette personne. N'est-ce pas? Intéressant, je trouve. Le verset 1 nous dit qu'ils sont passés, les disciples sont passés à côté de cet homme qui était aveugle de naissance. Et le verset 2 nous dit que lorsque les disciples l'ont vu, ils ont demandé à Jésus qui a péché, cet homme ou ses parents? Drôle de question. Drôle de question. Les disciples supposaient, comme beaucoup de monde encore se suppose, que toute souffrance et toute maladie sont les résultats directs d'un péché de quelqu'un. Plusieurs personnes encore qui pensent ça. Mais Jésus a mis à fin vraiment de cette question en disant que ce n'était ni le péché de cet homme, ni ses parents qui ont causé sa condition. Chaque souffrance de quelqu'un n'a pas nécessairement été causée par son péché ou le péché des autres. S'il vous plaît, gardez ça dans vos idées. On doit remarquer ça. Ce qui est encore plus convaincant, c'est la manière que je trouve que Jésus a traité cet homme, en opposition avec la manière que ses disciples l'ont fait. Il le considérait comme une curiosité. Comment ça se fait qu'il est même, lui? Comment ça se fait qu'il est aveugle, lui? Comment se fait que cette personne-là ait cette maladie-là? Puis comment ça se fait que l'autre est de même? Curiosité. Les personnes par curiosité. Mais Jésus le voyait comme une personne qui avait un besoin. Un besoin des œuvres de Dieu dans sa vie. Différentes manières à voir les personnes. Ça devrait nous mettre au défi. Robert nous amène tout le temps des défis. J'ai dit mercredi soir, Robert, c'est un enseignant, pas toutes les fois qu'il vient, il prêche, puis il nous donne des devoirs. Je n'aime pas les devoirs des maîtresses. Mais il nous donne des bons défis. Des bons défis. Alors, ça, c'est aussi un défi. Lorsque vous passez devant des gens, chaque semaine que vous voyez, qu'est-ce que vous voyez lorsque vous passez devant eux? Comment se fait qu'ils sont de même? Comment se fait que lui est de même? Comment se fait que lui a cette maladie-là? Comment se fait que l'autre est comme ça? Qu'est-ce qui est bien leur éducation? Qu'est-ce qu'ils connaissent? Moi, je sais qu'ils connaissent Jésus. Ils connaissent-ils bien Jésus? Est-ce que Jésus les connaît? Pensons-nous simplement à toutes sortes de choses à propos de leur sujet ou considérons-nous que cette rencontre avec eux est une occasion de montrer les œuvres de Dieu, de prendre soin d'eux d'une manière ou d'une autre? Jésus veut que nous voyions les gens comme lui les voit, comme lui les voit. Il veut que nous voyions des gens qui ont besoin de lui, qui ont besoin de lui. Des gens qui ne peuvent seulement le voir qu'à travers les œuvres que nous faisons pour eux. Que les œuvres que nous faisons pour eux, un à la fois. Un à la fois, comme Jean 9 nous le montre. Un homme à la fois, un homme qui était aveugle, un homme devant eux. Souvent, on pense que comment est-ce que je pourrais apporter une personne à l'Église? On aime de penser comment est-ce que je pourrais amener cette personne-là à l'Église, mais la réponse n'est pas vraiment comment les apporter à l'Église. C'est à vous et moi, personnellement, de remarquer dans la personne qui a besoin des œuvres de Dieu dans sa vie. Qui a besoin des œuvres de Dieu dans sa vie. Qui a besoin du Seigneur dans sa vie. Priez pour eux. Les rencontrer, priez pour eux. Les écouter, les inviter, les servir. Partagez Christ avec eux. Avoir des discussions qui ne vaut rien ou des tête-à-tête que tu peux appeler, ou c'est pas la réponse. C'est pas la réponse. Ils ne voulaient pas attendre notre théologie. Ils voulaient voir notre amour. Ils voulaient voir notre amour pour eux. On est concerné à eux. Dans nos versets ce matin, nous voyons que Jésus a gagné une personne. Une personne. Il a accompli les œuvres de Dieu envers lui. Et c'est ça que nous devons essayer de faire aussi. Dieu veut simplement que nous voyions une personne devant nous, que le Seigneur nous amène devant eux pour les servir. Chaque pas, chaque place que nous allons, le Seigneur nous dirige. Alors, chaque personne qui se trouve en avant de nous, que ce soit sur Showbiz ou que ce soit quoi que ce soit, c'est le Seigneur qui a apporté cet ensemblement. C'est le Seigneur qui a mis ces personnes devant nous. Amen. Moi, je le crois, le Seigneur nous dirige chaque jour. Dieu veut simplement qu'on voit une personne devant nous comme quelqu'un qui l'a amené devant nous. Et nous n'allons pas voir 5000 personnes venir à l'église et être sauvées dans 2 semaines. On n'a pas à voir ça. Amen. Mais vous savez combien les gens sont sauvés. Un à la fois. Un à la fois. En témoignant, en prenant soin d'eux. Alors la deuxième chose. Premièrement, voir la nécessité des œuvres de Dieu. Deuxièmement, de faire les œuvres de Dieu. De faire les œuvres de Dieu. Après que Jésus a vu la nécessité des œuvres de Dieu dans la vie de cet homme, il a alors fait quelque chose à propos. Il a réellement apporté l'œuvre de Dieu dans sa vie, dans cet homme. Le verset 6 nous dit, « Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. » Wow! Je vous suggère pas de faire ça à toutes les personnes que vous rencontrez. Pas une bonne idée. Pas une bonne idée. À moins que le Seigneur vous le dise. Mais c'est remarquable, n'est-ce pas? Dans le verset 7, elle nous dit, « Puis il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Va te laver. » L'aveugle alla se laver, il revient et voyait. Alléluia! Et voyait. Plus tard, Jésus a rencontré cet homme à nouveau et lui a fait savoir qu'il était le Messie. Donc, versets 35 et 38, ça nous dit, Jésus apprit qu'il l'avait expulsé, qu'il l'avait guéri, et il alla le trouver et lui demanda, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il lui répondit, « Qui est-ce? Dis-moi-le, Seigneur, pour que je puisse croire, moi aussi, en lui. » Jésus lui dit, « Tu le vois de tes yeux maintenant. C'est lui-même qui te parle maintenant. « Je crois, déclare l'homme, je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Alléluia. Alléluia. Les œuvres de Dieu dans la vie de cet homme. Encore une fois, Jésus n'a pas seulement vu cet homme comme un objet pour se demander des questions à propos. Il a vu cet homme comme quelqu'un qui avait besoin de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et ensuite, il a fait cette œuvre. Il se voyait comme le seul que Dieu avait placé là, devant lui, pour faire quelque chose à propos des besoins de cet homme. Dieu l'avait placé devant lui pour ce moment-là. Il y avait 2 aspects dans l'œuvre de Dieu dans la vie de cet homme. Premièrement, et bien sûr, il avait un besoin physique. Il avait un besoin physique. Il était aveugle, il avait un besoin physique. Si vous aviez demandé à cet homme qu'est-ce qui était son plus grand problème, bien sûr, il aurait dit, j'ai besoin de voir, je suis aveugle, je ne vois pas, j'ai besoin de voir. Son besoin physique. Mais il y avait aussi un besoin spirituel, que son péché et son besoin de connaître Jésus comme son sauveur et de se voir pardonner, c'était son plus grand besoin. Lui, probablement, pensait que le plus grand besoin était son aveuglement. Mais le plus grand besoin qu'il avait, c'était de connaître Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. N'est-ce pas? C'était en fait le plus grand besoin. Si elle aurait recouvert sa vue pour quelques années et qu'elle aurait mouru dans l'éternité sans connaître le Seigneur, qu'est-ce que ça aurait voulu la peine qu'il voit? Amen? Qu'est-ce que ça aurait voulu la peine? La vue n'était pas son plus grand besoin. Le salut était son plus grand besoin. Mais Jésus en a fait répondu aux besoins de cet homme lorsqu'il a accompli les œuvres de Dieu dans sa vie. 6 et 7 nous dit qu'il a guéri l'homme de sa vue et dans le verset 37, qu'il a revu l'homme et lui a demandé, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Et l'homme lui dit, « Qui il est pour que je croie? » Jésus lui a dit, « Tu le vois maintenant. » Et il a dit, « Seigneur, je crois. » Merci Seigneur, je crois. Et il l'adora. Alors, Jésus a vu cet homme, a répondu à son besoin immédiat et par conséquence a répondu au besoin ultime de sa vie, qu'il avait de connaître son Seigneur et son Sauveur. C'est un modèle pour nous. Amen. Un bon modèle pour nous, pour chacun de nous, que nous devrions faire pour les gens que nous rencontrons, pour accomplir les œuvres de Dieu. Accomplir les œuvres de Dieu. On doit remarquer les besoins des gens qui nous entourent. Répondre à ces besoins, puis utiliser cela comme une occasion pour les diriger vers le Seigneur. Amen. C'est une bonne manière d'évangélisation. Ces deux aspects sont importants. Le salut éternel d'une personne est le besoin le plus grand qu'elle a de besoin. Mais elle n'est peut-être pas à l'écoute si elle souffre de quelque chose d'autre, comme qu'on a vu avec l'aveugle. Elle ne peut pas se soucier de son besoin spirituel avant qu'elle soit guérie physiquement. Premièrement, prise soin d'eux. Mais d'un autre côté, si tout ce que vous faites est de répondre à un besoin physique dans sa vie et vous ne partagez pas Jésus, qu'est-ce que ça vaut? Il est guéri, mais où est-ce qu'il s'en va? Amen. Vous avez manqué la chose la plus importante, si c'est ça que vous faites. Dans Jean 6, 29, ça nous dit, « Ceci est l'œuvre de Dieu, que vous croyez à celui qui vous a envoyé, à celui qu'il a envoyé. » C'est l'œuvre de Dieu, que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La chose la plus importante que vous pouvez faire en travaillant avec les œuvres de Dieu est de montrer aux gens Jésus comme Seigneur et comme Sauveur de leur vie, le plus grand besoin qu'ils ont de besoin. Troisièmement, alléluia, on doit voir la nécessité des œuvres de Dieu et on doit faire les œuvres de Dieu. Et troisièmement, l'œuvre de Dieu implique aussi la prière. Que vous êtes d'accord? Amen. Amen. L'œuvre de Dieu implique aussi la prière. Nous devons prier pour des occasions qui se présentent devant nous. Nous devons prier pour faire l'œuvre de Dieu dans notre monde. On devrait prier pour les personnes qui nous entourent. On devrait prier pour eux. Prier pour eux. Les dernières conférences que nous avons eues, cette année, notre district, et pas seulement notre district, mais le district à travers le Canada, tous les districts à travers le Canada, ont mis une importance sur la prière. Sur la prière. Comment important que c'est. Notre président David Wells souvent nous parle de chaque église devrait être une maison de prière. Maison de prière. Alors, ils ont mis en marche une initiative de prier pour chaque personne par leur nom. Amen. On connaît des personnes, on connaît nos familles, on connaît des personnes de nos vies que vous connaissez, que moi je ne connais pas, moi je connais que vous ne connaissez pas. On connaît des personnes par leur nom. Et le nom est important à Dieu. Nos noms sont importants à Dieu. Nous sommes vus par nos noms. On l'a chanté, n'est-ce pas? By the name, j'oublie le nom, le chant que by the name, I called you by name. Je vous ai appelé par votre nom. Amen. Amen. Corinne, je t'ai appelé par ton nom. Amen. Amen. Paul, je t'ai appelé par ton nom. Alléluia. Alléluia. Bernani, j'ai gardé Corinne. Le Seigneur t'a appelé par ton nom. Amen. Le Seigneur nous a appelés par notre nom. Merci Seigneur. Nos noms sont importants. Importants à lui. Lorsqu'on prie, moi et Claudette, on prie pour nos enfants. Lorsqu'on prie, on ne prie pas. Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu bénisses la plus vieille. Celle-là qui est venue au monde la première. Seigneur, bénis-la. Bénis-la. La plus jeune, Seigneur, on prie que tu la protèges, que tu la gardes. Puis la deuxième, fais-lui attention que... Ben non. Non. Amen. On prie pour nos petits-enfants. On prie pour Théo. Seigneur, touche Théo. Garde-la, protège-la. Seigneur, touche Mia à l'école. Entoure-la. touche Mia, touche Théo, touche Émilie à la travail, touche Félix au travail. Les noms sont importants pour nous et pour le Seigneur. Nos noms sont importants. Importants. Les noms sont importants pour le Seigneur. Dans Matthieu 1, 21, ça nous dit, « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Dieu, les noms sont importants à Dieu. C'est lui que tu sauveras ton peuple. Psaume 147, 4 nous dit, « Elle compte le nombre des étoiles et leur donne à tous un nom. » Si qu'il compte, si qu'il peut donner un nom à chaque étoile, comment important est notre nom devant lui, n'est-ce pas? Les noms sont importants au Seigneur. Vous vous souvenez-vous dans la scène, on a parlé peut-être un peu avant, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué le film « The Chosen ». Il y a une scène dedans que Lydia, elle était une prostituée qui était dans une taverne et Jésus était... est venue la rencontrer. Et au commencement, elle a eu peur. Elle a eu peur et elle ne voulait pas lui parler. Elle voulait juste sortir de là. Elle voulait s'en aller. Et elle a sorti, mais Jésus la suit. Et lorsqu'elle a sorti, il a crié, « Marie, Marie de Magdala, hein? Qu'est-ce que tu es? » Elle a tourné, elle a dit, « Qu'est-ce que tu es, que tu sais mon nom? » Il dit, « C'est moi. » C'est moi qui te sauve. C'est moi qui t'ai appelé par ton nom. Je te protège, je te garde. Je t'ai racheté. Je te connais par ton nom. Le Seigneur nous connaît par notre nom. Par notre nom. Elle était connue comme Lydia, la prostituée, mais Jésus la connaissait comme son vrai nom. Marie de Magdala. Marie. Pouvez-vous vous imaginer le sentiment dans son cœur? Oh, il connaît mon nom. Amen. Ça vous arrive-t-il des fois que vous allez magasiner quelque chose et vous rencontrez une personne? Fernand, comment ça va? Je ne me rappelle pas, mais ça touche, n'est-ce pas? Il connaît mon nom. S'il connaît mon nom, je dois le connaître. Amen. Se connaître notre nom, c'est important. On se sent important. Et c'est ça qu'elle se sentait. Lorsque Jésus a dit Marie, elle a senti aimée. Elle a senti importante, importante. Quelqu'un la connaissait par son vrai nom. Jésus nous connaît par notre nom. Il connaît chaque pécheur qui n'est pas encore à lui par leur nom. Il les aime. Il les aime et il veut les sauver. Les noms sont importants. Dans Ésaïe 49, 16, ça nous dit, « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. » En anglais, ça dit, « I have your name written in the palm of my hands. » J'ai votre nom inscrit dans la paume de ma main. Pouvez-vous vous imaginer? Wow! On est important. On est important à lui. Alors, bien sûr, l'initiative est de s'engager à prier pour 5 personnes, 5 minutes par jour. Facile, n'est-ce pas? 5 minutes par jour, prier pour 5 personnes. Les bénir. On a des cartes en arrière, on a des pancartes en arrière, des petites cartes et des plus grandes cartes sur la table des placiers. Si vous voulez en prendre, s'il vous plaît, prenez-en. Vous pouvez inscrire 5 personnes sur la carte et vous priez pour eux chaque jour 5 minutes. Chaque jour 5 minutes pour les bénir. Pour les bénir. Mais il y a une catch qu'on dirait en bon acadien. Ce n'est pas une catch, mais on veut les bénir. Les bénir. B, E accent aigu, N-I-R. Alors le B, c'est bénissez-les en commençant par la prière. Amen. On peut marquer le nom de nos enfants, le nom de nos petits-enfants, chacun Dieu par leur nom, et on prie 5 minutes par jour pour eux. On peut inscrire le nom des personnes qu'on connaît. Parce que comme que j'ai dit, il y a des personnes comme moi que je connais que vous ne connaissez pas. Alors, je peux marquer les noms de personnes que je connais. Vous marquez les noms des personnes que vous connaissez, en dehors, qui sont sauvées, qui ne sont pas sauvées, pour prier pour eux, pour les bénir avec la prière. Je pense qu'on a parlé souvent avant, l'évangélisation commence par la prière. Ce n'est pas nous autres qui sauvons, c'est le Saint-Esprit qui sauve. Et pour que le Saint-Esprit sauve, on doit prier pour ces personnes. Il y a des personnes qui ont prié pour nous. Amen. Alors, on doit prier. La prière est nécessité si on veut sauver des personnes. Je ne crois pas sauver, mais c'est qu'on veut apporter le Seigneur aux personnes. Le Seigneur connaît les fardeaux que nous avons, ou que nos enfants, ou que nos proches avons. On ne les connaît pas, nous. Souvent, les fardeaux, même de nos enfants, nous ne les connaissons pas. Croyez-vous ça? Nos petits-enfants passent des temps difficiles qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas peut-être ou qu'on ne reconnaît pas. Mais le Seigneur connaît les fardeaux. Il connaît les fardeaux de chaque personne de nos familles, les fardeaux de chaque personne de nos communautés. Il connaît les fardeaux des besoins. On doit les apporter au Seigneur premièrement et prier pour eux. Pour leur salut, bien sûr, mais aussi pour prendre soin de leurs problèmes, de leurs fardeaux, si nous pouvons. Comme qu'on a vu dans les versets qu'on a lus, prenez soin de leurs besoins et apportez-les au Seigneur. Alors, on doit prier. Premièrement, bénissez-les en commençant par la prière. Le « E », c'est écouter. Écoutez-les avec attention. Ça, c'est difficile. Oui, c'est difficile pour moi, puis c'est difficile pour vous autres. Je le sais. Parce qu'aussitôt qu'on commence à parler, il y a quelqu'un d'autre qui parle, puis on pense que ce qu'on va répondre avant qu'il réponde. Amen. Vous êtes-vous là? Moi, oui. Oui. Écoutez. Écoutez est si important. Vraiment important. Perdu ma place. Écouter est vraiment important. Jacques nous dit, « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Amen. Amen. Lent à se mettre en colère. Commencez des bonnes conversations, mais après, écoutez. Écoutez. J'avais lu une chose qui disait qu'il y avait quelqu'un qui avait mis une affiche sur le papier, le journal de la place où il était. Il avait mis une petite annonce qui disait que s'il y a quelqu'un qui veut être écouté seulement, qui aimerait de parler et être écouté, appelez-moi. Occupé 24 sur 24 presque. Vraiment occupé. Le monde veut se faire entendre. Les vieillards dans les personnes âgées aiment de se faire écouter. Ils aiment de partager. On a besoin d'écouter les personnes en avant de nous. Alors, comment devenir un bon écouteur, un bon écouté? On doit réaliser premièrement que écouter, c'est un don. Saviez-vous? C'est un don qui vient de Dieu et ça peut grandir en nous. On a besoin d'agir, on a besoin de travailler avec ces choses, on a besoin d'utiliser, de grandir dans cette habilité d'écouter. Ça s'apprend et ça, on peut grandir dedans. C'est vraiment important de nos jours. Alors, écoutez-les avec attention. N'hésitez pas à manger avec eux. Avez-vous remarqué souvent comment est-ce que dans la parole de Dieu, Jésus mangeait avec des personnes? Quand est-ce que vous lirez la parole, remarquez combien de fois Jésus a mangé avec les personnes qu'il rencontrait. Je pense à Matthieu, vous vous souvenez, hein, celui qui collectait les taxes. Oh, elle était mangée avec lui, aïe, aïe, aïe. Manger avec eux. Zacchaïus qui était dans l'arbre, l'amenait chez eux pour manger avec lui. Amen. Jésus mangeait avec eux. Et savez-vous, je pense que ces moments-là de manger avec eux, c'était là que Jésus vraiment gagnait leur cœur. Amen. Il gagnait leur cœur. Lorsqu'on prend un repas ensemble, il y a quelque chose qui se fait, on dirait, entre nous, entre les. Hein? Il y a quelque chose, une bonne qui se fait. Hein? Amen. Il y a quelque chose qui se fait. C'est important. Alors, si vous avez l'occasion, Prenez-les. C'est ces moments-là qui gagnent les cœurs souvent. Le « i », investissez-vous en les servant. En les servant. Ça, c'est l'amour en action, les servir. Et le meilleur exemple, bien sûr, c'est Jésus lorsqu'il lavait les pieds de ses disciples. Amen. Il les servait. Le maître servait les disciples. Wow! Il leur a dit, faites comme que je vous fais. Servissez-vous, servez-vous les uns les autres. C'est important. Servir les personnes devant nous qui ont des besoins. Les servir, prendre soin d'eux. Et le dernier, bien sûr, le R, révéler leur Jésus ou partager leur Jésus. Bénir, partager leur Jésus. Vous avez remarqué que c'est la dernière chose à faire, hein? La dernière chose de leur partager Christ. Comme j'ai dit, montre-moi ton amour. Après, parle-moi de ton Dieu. Amen. Montre-moi ton amour, premièrement. C'est ça que les gens ont besoin de voir. L'amour. L'amour qu'on est concerné pour eux. Pas concerné pour qu'ils viennent à l'église, qu'on peut en ajouter un autre sur notre... Non. On est concerné à eux. Notre amour pour eux. C'est ça qui devrait compter. Alors, comme j'ai dit, nous avons des cartes en arrière. Vous marquez 5 noms. Vous pouvez prendre une carte, deux cartes. Vous pouvez prendre un poster qu'on a, les pancartes, les plus grandes. Vous pouvez écrire les noms que vous voulez dessus, les mettre sur votre frigidaire, les mettre où que vous soyez. Peut-être même les apporter lorsqu'on a des temps de prière. Apporter la pancarte et on priera. Pouvez-vous vous imaginer si chaque personne prend 5 noms et prier pour eux à travers le Canada? Imaginez l'impact que ça va faire. La prière est importante. Importante. Si chaque église dans le Canada prend cette initiative, combien de personnes vont y être touchées? Alors, joignons-nous avec les églises à travers le Canada et prions pour chaque personne par leur nom. Vous êtes invités à en prendre comme vous voulez. Revenons maintenant à notre histoire. Nous avons vu la nécessité des œuvres de Dieu, de faire les œuvres de Dieu, impliquer aussi dans la prière et finalement saisir les occasions pour les œuvres de Dieu. Saisir l'occasion pour les œuvres de Dieu. Verset 4 nous dit, « Nous devons faire les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. » La nuit vient. Aucun homme ne pourra travailler. En d'autres mots, on doit s'occuper des choses les plus importantes pendant ce qu'il est temps. Mais qu'on soit sous la terre, on ne pourra plus prier. Ce sera trop tard. On ne pourra plus prier pour les autres. Alors, maintenant, c'est le temps. La nuit arrive où nous ne pourrons plus travailler. Je suis sûr que vous avez entendu l'histoire de Satan et ses méchants. Hein? Satan et ses méchants s'avaient rencontrés, ils avaient eu une grosse conférence ensemble, puis ils voulaient en faire. Satan a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour défaire le monde, pour qu'il soit, pour pas qu'il croie en Dieu, pour pas qu'il, pour quoi que ce soit. Ils voulaient en voir un gros impact. Alors, Daniel Kadi dit, moi, je vais leur dire qu'il n'y a pas de ciel. Il n'y a pas de ciel. C'est pas vrai, il n'y a pas un ciel. Satan, il dit non, il dit, je ne pense pas que ça marche. Je ne pense pas que ça marche, ce n'est pas bon. Il dit, il faut se trouver quelque chose d'autre. Il y en a un, il dit, ah, ben, il dit, moi, je vais lui dire qu'il n'y a pas d'enfer. Non, il dit ça non plus. Il dit, les gens, il dit, ils lisent la parole, hein. Ils lisent la parole, puis il dit, ils voient ce qu'il y a dans la Bible, puis il dit, ils ne sont pas, you know, il dit, je ne sais pas, ça ne marchera pas. Il dit, il faut trouver de quoi d'autre. Il y en a un qui a dit, moi, je vais lui dire qu'il y a du temps, c'est du temps masse. Pas besoin de se presser. Je pense que c'est ça qui gagne encore nos gens aujourd'hui. Du temps masse. All right. Demain. Il y a du temps masse. Nous devons faire les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit arrive que personne ne peut travailler. La nuit, ça veut dire que l'époque actuelle que nous vivons arrive à la fin. Arrive à la fin. C'est souvent qu'on parle que le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Ce monde pourrait être terminé bientôt. Plus vite qu'on pense. Jésus va revenir. Tout ce que vous espérez accomplir pour Dieu sur cette terre, vous faites mieux de le faire rapidement, parce que le Seigneur revient. La nuit vient où aucun homme ne peut travailler. Mais savez-vous quoi? Même si Jésus ne revient pas dans les prochains 50, 100 ans, peut-être que ce sera encore 1000 ans, mais il y a toujours un sens dont la nuit vient finir dans notre vie personnelle aussi. Je ne sais pas si je serai ici demain. Amen. Vous ne savez pas si vous serez ici demain. Peu importe combien de temps ce monde va durer, vous et moi, on ne va pas durer éternellement. Notre vie est limitée. Le temps est proche. Maintenant. Psaume 90, 12, apprenons-nous à compter nos jours, afin que nous te présentions un cœur de sagesse. Apprends-nous à compter nos jours, Seigneur. On doit être sage avec notre temps. Sage avec notre temps et réaliser que nous n'avons pas tout le temps au monde. On est ici pour un temps très limité et nous devons lui être certains de ne pas le gaspiller. Alors Jésus nous dit, nous devons faire les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit arrive où personne ne peut travailler. Réalisez-vous que nos jours viennent à fin. Le temps est maintenant de faire les œuvres. Amen. Amen. J'aimerais qu'on pourrait se lever debout. Je vais demander au groupe de revenir en avant. On va prendre la Sainte-Seine. Et dans le temps que Allison...